Madame Delas, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez la commune de Sier et vous êtes la maman de Jean-François, disparu depuis avril 2002, admis alors au service psychiatrique de l'hôpital de Thonon. Depuis, vous recherchez une trace de vie de votre fils. Il semble que désormais, des éléments nouveaux soient apparus dans cette affaire. Voulez-vous tout d'abord nous rappeler le contexte de l'époque concernant la situation de votre fils Jean-François ?
Au moment de la disparition, vous voulez dire ? Parce qu'il m'avait fait un délire suite à l'absorption de trop de haschich. J'ai fait intervenir le matin le SMUR et ils sont arrivés donc avec médecins, infirmiers, pompiers. Ils ont vu qu'il était dans un état critique puisqu'ils ont estimé qu'il fallait l'emmener. Donc, il s'est vêtu juste d'un pyjama, d'une culotte de pyjama d'été, d'un pull, de baskets. Ils m'ont dit, il ne faut pas qu'il prenne de vêtements. Et il est parti comme ça, presque nu comme un ver. Donc, ils l'ont hospitalisé au Morillon. Et on n'avait pas le droit de lui parler. Ça a duré 3 jours. Et le troisième jour, le 1er avril 2002 à 10h le soir, l'infirmier m'a appelé pour me demander si Jean-François était chez moi. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter, bien sûr. J'ai attendu le lendemain, vu l'heure tardive, pour appeler les copains proches que je connaissais et découvrir qu'il était ni chez les uns ni chez les autres. Bon, suite à ça, je me suis rendue au commissariat pour quand même leur dire que mon fils avait disparu la nuit de l'hôpital des Morillons. Une semaine plus tard, j'ai été au Dauphiné avec une photo parce que j'ai voulu faire mettre l'avis de disparition. Si jamais, j'ai pensé, il est parti en autostop, donc quelqu'un va peut-être pouvoir témoigner qu'il l'a pris en voiture la nuit, habillé comme ça, ça passe pas inaperçu, j'imagine. Et c'est à ce moment-là que je découvre que parce qu'il était majeur, il fallait l'aval du commissaire de Thonon, et il n'y avait rien d'inscrit. Moi, je m'étais rendue le lendemain pour leur dire que Jean-François était parti de l'hôpital psychiatrique, et le commissaire a dit, ben, écoutez, ils ont dû faire la main courante. Donc je me suis rendue au commissariat, cette fois-ci ça a été fait dans les règles de l'art, tapé à la machine, signé, etc. Et la journaliste a pu mettre l'avis de disparition dans le journal, qui n'a rien donné.
Alors que se passe-t-il ensuite ? Votre fils s'est-il manifesté d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des opérations bancaires ou auprès d'instances officielles, police ou consulat par exemple ?
Non, il est parti sans papier, sans sa carte bancaire, le compte en banque, et il est toujours le même. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il en a toujours autant que lorsqu'il est parti. Je sais, moi, qu'il n'a jamais fait de demande de papier, puisque ça, j'ai été vérifiée. Non, il n'y a absolument rien qui atteste qu'il ait pu se refaire une identité sous son nom, en tout cas.
Alors, quelques temps plus tard, il va se passer un événement important. En 2004, je crois, l'un de ses amis dit l'avoir rencontré dans la région.
En fait, je le sais que depuis 2 mois, ça. Parce que il y a 2 mois en arrière, donc, grâce à une amie, Jessie, qui est venue me soutenir et, disons, me faire repartir pour refaire des recherches, parce que j'avais abandonné 6 ans après.
Et notamment par le biais d'Internet, en créant des blogs, différents supports.
Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mis des affichettes dans toutes les grandes villes de Haute-Savoie, finalement. Et c'est grâce à ces affichettes d'avis de recherche que le copain qui était dans la région au début où Jean-François était rentré des États-Unis l'a reconnu. Et s'est souvenu l'avoir vu dans Chambéry l'été 2004. Et on sait que c'est l'été, enfin que c'est après sa disparition, parce que mon fils qui était tatoué venait de se faire tatouer la deuxième jambe. Donc ça, c'est fatalement après sa disparition. Et là, c'est vraiment un indice comme quoi il était en vie après sa disparition de l'hôpital, ça c'est sûr.
Grâce aux avis de recherche et vidéos diffusées sur Internet, vous avez donc appris cet été, au mois d'août, qu'un homme porte le même nom que votre fils aux États-Unis. Une situation étrange, d'autant que l'adresse de cet usurpateur correspond à une ancienne adresse située en Floride, c'est cela ?
Ouais, c'est ça. Parce que Jean-François était parti, donc j'essaye de me remettre les années en tête. Ça devait être 94 pour faire une école des effets spéciaux du maquillage au cinéma. Donc il est allé là-bas. C'est une amie qui l'a hébergé pendant 1 an. Et là, il a dû passer le permis de conduire américain parce que les distances étant grandes, naturellement, sur ce permis de conduire était mentionnée l'adresse où il habitait, qui était l'adresse de mon ami. Donc, il a passé un an là. Suite à cette année où il a eu ses trois petits certificats, là, il est parti à Los Angeles pour faire la pratique de ce qu'il avait appris dans les ateliers des effets spéciaux à Hollywood. Et c'est au moment de ce départ qu'il a eu son sac de volée. Donc, ont disparu à ce moment-là son passeport français, son permis de conduire américain. Depuis qu'on l'a mis sur le site aux États-Unis comme disparu, c'est une internaute qui s'est intéressée à son cas, qui est allée sur un site américain qui vous donne des informations sur une personne qui vous intéresse, à savoir quel est le montant qu'elle déclare gagner. Vous payez $50, vous avez accès au site. Elle a tapé Jean-François de Las, elle a trouvé un Jean-François Roger, qui est le prénom de mon père, ce qui est très important à mes yeux parce que c'est quand même pas banal. Sa date de naissance exacte, une adresse américaine, et déclarant gagner $3000 par mois. Donc moi j'estime que ça ne peut pas être mon fils pour la bonne raison qu'il n'a jamais demandé de papier depuis qu'il a disparu en 6 ans. Donc je ne vois pas comment aux États-Unis tout d'un coup il est légalisé pour travailler, payer des impôts sous une identité alors qu'il est parti sans papier. Voilà, c'est un tour de passe-passe que je n'arrive pas à comprendre. En plus j'ai découvert que l'adresse indiquée était l'adresse où il habitait chez mon ami aux États-Unis. Laquelle amie a vendu la maison en 2001, alors qu'il a disparu le 1er avril 2002, et elle habite maintenant à 4 heures au nord de la Floride. L'internaute, elle s'est rendue sur place, elle a sonné à la porte de l'adresse indiquée, et c'est un couple d'Antillais qui a ouvert la porte. Elle avait regardé au préalable sur les boîtes aux lettres, elle n'a pas vu Jean-François Delas s'inscrit. Donc, en ce qui me concerne, c'est une usurpation d'identité, ça c'est sûr et certain. En plus du fait que Jean-François, au moment où il est donc parti de Miami à Los Angeles, durant ce voyage, il s'est fait voler son sac avec son passeport français et son permis de conduire américain, j'avais dû à l'époque intervenir auprès de la préfecture d'Annecy pour qu'il justifie de son identité auprès de l'ambassade de France à Los Angeles pour qu'on lui mette un passeport. Et c'est ce qui a été fait. On lui a émis donc un passeport français. Autrement, il n'aurait jamais pu revenir en France. Et ça fait quand même 13 ans. Donc, 13 ans après, on apprend que quelqu'un gagne $3000. Sans parler que pour moi, bon, c'est vrai que ça a été quand même un choc émotionnel. Et puis après, en envisageant le pire, puisqu'on vit la période des extrêmes, on se dit pourquoi pas un terroriste qui tout d'un coup prend son identité, fait sauter une bombe, et mon fils, il est plus l'inconnu qu'il est depuis 6 ans, mais il est l'ennemi numéro 1. Puis là, on va le chercher partout. Alors, bon, ça, c'est vraiment l'extrême. Ouais. C'est en envisageant des hypothèses incroyables, je l'espère. Mais c'est pour dire que, alors qu'il a intéressé personne jusqu'à aujourd'hui, tout d'un coup, en effet, dans le mauvais sens, il peut intéresser d'autres personnes et ça serait beaucoup plus dangereux pour lui à ce moment-là.
Alors, fort de ces éléments nouveaux, vous avez écrit dernièrement aux autorités locales, que leur avez-vous demandé et avez-vous obtenu depuis une réponse du parquet, par exemple, ou d'autres
Eh bien, j'avais appris tout à fait incidemment, premièrement, que l'affaire de disparition de mon fils avait été classée sans suite en janvier 2007, et ce, par le procureur de la République de Thonon. Il m'en a jamais avisé. Donc, en ce qui concerne les dossiers où il pouvait être enregistré à la police, c'est éliminé, il n'existe plus. Donc, je me suis rendue au commissariat quand même, à ce moment-là, pour leur demander de faire une recherche dans l'intérêt des familles. J'avais le numéro du document, et quand je suis arrivée, eux, ils ne savaient pas ce que c'était. J'ai attendu 3 quarts d'heure avant qu'ils trouvent le document. Enfin, ça, c'est la petite histoire. Bon, je peux comprendre que ça ne leur arrive pas tous les jours, et puis que peut-être ils sont un peu ignorants à la matière, parce que moi, je l'étais aussi. Donc, avec tous ces faits nouveaux, j'ai appelé le commissariat qui m'a dit qu'il ne pouvait rien faire du fait que l'affaire était classée sans suite et que c'était au procureur de la République de donner l'ordre de reprendre des recherches ou quoi que ce soit. Donc je lui ai écrit il y a un peu plus de 15 jours en arrière en recommandé avec accusé de réception lui donnant entre autres la preuve de vie, quand même, qu'on avait eue grâce aux affichettes, et lui faisant part de l'usurpation d'identité aux États-Unis, donc avec le nom de Jean-François. Et je lui demande à la fin de ma lettre, bien entendu, de faire le nécessaire avec les autorités policières et aussi avec les autorités américaines. À ce jour, ben ça fait plus de 15 jours, j'ai eu aucune réponse.
Mais c'est très récent, la foi.
Oui, bon, ben ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours, mais enfin, il n'a même pas... Bon, heureusement, j'ai l'accusé de réception, donc je sais qu'il a reçu la lettre, voilà. C'est arrêté là.
Et entre-temps, l'affaire a été largement médiatisée, toutes
voilà.
les radios, les journaux.
Oui, parce que France Presse a été contactée et France Presse a dispatché à toute sa liste d'abonnés, ce qui a permis que certains journalistes s'intéressent à l'affaire, dont RTL, Le Parisien, Le Dauphiné, Le Messager, localement. Autant que je sache, on m'a même dit d'autres journaux, j'ai pas retenu, enfin. Et le détective récemment, mercredi, il paraît qu'il y a un article qui va paraître dans le journal Détective.
Dans cette lutte incessante, on peut aisément imaginer des périodes de découragement. Qu'est-ce qui vous fait avancer et garder l'espoir et la motivation dans ce combat que vous livrez pour la vérité depuis toutes ces années?
Bah, le fait déjà que je sache qu'il est en vie, parce que franchement parlé, moi j'ai pensé qu'il était mort à l'hôpital et qu'il en était arrivé là, parce qu'ils n'ont jamais été coopératifs, l'hôpital. Bon, je peux comprendre aujourd'hui qu'ils se sont sentis quand même coupables, parce que vu la façon dont il avait été interné, ils étaient responsables, même s'ils me disent qu'il était majeur à l'époque. Donc, maintenant je sais qu'au moins il est en vie, que le copain qu'il a vu l'a trouvé... mieux que sur les photos, parce qu'il trouvait qu'il était maigre sur les photos. Donc déjà, il avait à cette époque-là un état physique bien, donc ça me rassure. Et naturellement, maintenant que je sais que mon fils est en vie, que grâce à Jessie, j'ai le soutien d'une personne avec toute la technique qu'elle a, les idées qu'elle a, je ne suis pas seule, parce que j'ai été seule jusqu'à présent. Et c'est grâce à elle que maintenant... ben, j'ai retrouvé, pas l'espoir, parce que l'espoir, ben, depuis que je sais qu'il est en vie, je peux espérer qu'il l'est toujours, et qu'autrement on retrouverait, je le saurais. Ben, l'espoir, oui, de savoir ben, ce qu'il fait, où il est, voilà, tout simplement.
Alors, en acceptant notre invitation pour enregistrer cette émission internet sur le site villedossier.com, vous souhaitez mettre une chance supplémentaire, même minime, pour médiatiser, élargir encore un peu plus cette affaire afin d'obtenir peut-être de nouveaux indices, de nouvelles pistes, pourquoi pas. Et là, vous avez pu observer la puissance d'internet.
Ah oui, tout à fait. Et même quand on pense que ça ne sert à rien, comme lorsque j'ai collé les affichettes en Haute-Savoie, alors que j'ai appris qu'il vivait à 150 km de chez moi, finalement, c'est pas loin. Et j'étais sûre que ça servait à rien. Donc, pour moi, qu'on parle de lui dans n'importe quel endroit, c'est vrai qu'il suffit d'une personne. Même lui, il suffit que ce soit lui qui tombe dessus. Ou quelqu'un qui le reconnaisse. Et ça suffit. Ça n'a pas besoin d'être, finalement, un journal tellement puissant. C'est simplement la chance qu'on parle et puis... tout d'un coup, ça tombe sur la bonne personne.
Alors justement, Madame Delasse, les internautes qui suivront cette émission ces prochains jours ou plus tard, où doivent-ils s'adresser? Que doivent-ils faire en cas d'information importante qui pourrait être donnée sur la situation actuelle de votre fils Jean-François?
Alors, il y a un numéro qui est le 06 27 46 85 57. Et là, on peut laisser un message... parce que souvent, il n'y a que le répondeur sur ce numéro-là.
Une dernière question, madame. Vous envisagez effectivement le cas d'une disparition volontaire. Et comme cela peut arriver parfois, quelle serait votre réaction? Seriez-vous alors résigné à cette réalité-là?
Ben, je le suis déjà aujourd'hui. Hein. Maintenant que je sais que c'est vrai, il n'a pas accepté d'être à l'hôpital des Morillons. Il en est parti, donc il en est bien parti tout seul dans les conditions que je vous ai expliquées. Moi, c'est sûr que j'accepte, même qu'ils ne veulent pas me revoir, même s'il avait fait tatouer mon prénom sur sa poitrine, on avait un lien assez fusionnel. Bon, ça s'est mal passé une certaine période, c'est vrai. S'il a toujours la rancune, ben, bien sûr. Mais au moins, je saurais comment il vit. Ben, peut-être qu'il vit bien ce que j'espère. Peut-être que... voilà, tout simplement savoir.
Madame Delas, souhaitant que la diffusion de ce reportage sur Internet contribue d'une façon ou d'une autre à susciter quelques réactions pouvant faire progresser vos recherches pour retrouver une trace de vie de votre fils. Merci, madame, d'avoir accepté de témoigner.
Oui, ben c'est sûr, c'est un outil fantastique, hein, je le découvre. Je vois que non seulement il y a des gens qui vont, qui regardent par curiosité, mais qui ont encore de la sympathie et qui font même des efforts, puisqu'il y a même des gens qui ont accepté de coller des affiches sur Marseille, Clermont-Ferrand, enfin des endroits en France, alors que ces gens-là, je les connais absolument pas. Ils ont donné de leur temps et vraiment, oui, j'espère beaucoup de ça, c'est vrai.
Merci.
Merci.